jamais. Et puis nous aurons ensuite des échanges avec Philippe Guton et tous les intervenants. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Philippe Givre.
Merci. Non, loin d'être un rapport, ce sera d'abord et avant tout quelques réflexions, quelques repères, quelques points de repère, hein, donc tirés des travaux d'un certain nombre d'auteurs comme Raymond Kahn, bien sûr, mais aussi Bernard Penault, François Richard, qui ont tous travaillé sur cette question de la subjectivation. Quelques aspects donc évidemment trop lapidaires par rapport à ce qu'il serait nécessaire d'évoquer. Il n'est sans doute pas anodin donc de constater tout de suite que ces auteurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question de la subjectivation sont des auteurs qui, pour la plupart, ont travaillé avec des adolescents. Ce qui souligne d'emblée que l'adolescence est sans doute un des moments clés de ce travail de subjectivation, même si, bien sûr, il est présent tout au long de l'existence du sujet. Alors, comme on l'a déjà dit ce matin, cette question de la subjectivation, elle a été, pour l'essentiel, introduite en 1991 par Raymond Kahn, avec son rapport sur le sujet, même si lui-même pourra dire par la suite qu'il eût été préférable de l'intituler « De la subjectivation ». Et depuis cette publication, une sorte d'élan commun semble pousser une part non négligeable de la communauté psychanalytique à l'étude du processus de subjectivation. Devenu un véritable paradigme, hein, au même titre que l'hystérie a pu en représenter un en son temps. On peut donc se demander qu'est-ce qui pousse la subjectivation a occupé une telle place dans la psychanalyse contemporaine. L'une des raisons essentielles, et ça aussi ça a été déjà un peu dit ce matin, repose sur le constat de Raymond Kahn que l'étude de la relation objectale a été longtemps l'objet privilégié de la psychanalyse, alors qu'il était devenu clair au fil du temps que rien ne pouvait se passer dans ce domaine des investissements objectaux sans passer par la dimension subjectale. Rien ne peut se faire sans mettre en jeu la lignée subjectale telle qu'André Green a pu en formaliser la notion. La lignée subjectale qui permet d'impliquer, à côté du moi, les notions de soi, d'identité, de je et bien sûr de sujet. Cette définition de la lignée subjectale démontre immédiatement la dimension plurielle de cette notion. Or, la notion de subjectivation doit également être envisagée en tant que notion polysémique et composite. En effet, la notion de subjectivation implique tout à la fois celle de symbolisation au pluriel, mais aussi celle de structuration, de création, de transitionnalité, voire même celle de sublimation, tout en s'efforçant de préciser davantage à chaque fois le champ d'action respectif de chacune de ces notions. Par exemple, si la subjectivation intègre les effets de symbolisation, elle suppose de prendre en compte différents niveaux de symbolisation. Symbolisation primaire, symbolisation secondaire notamment. C'est-à-dire qu'elle cherche à appréhender ce qui excède l'existence même d'un processus de symbolisation. À ce titre, la notion de subjectalisation, laquelle notion favorise davantage une approche des préconditions d'accès au symbolique, va avoir un rôle tout à fait important. La subjectalisation, contrairement à la subjectivation, va faire une place très conséquente aux zones d'expérience très archaïques, contemporaines de l'édification du sujet. Puisque la subjectalisation concerne d'abord l'instauration même du noyau du sujet, alors que la subjectalisation alors que la subjectivation, par exemple, présuppose déjà l'existence d'un sujet. Les conceptions proposées par Raymond Kahn différencient donc très nettement subjectivation et subjectalisation. Puisque la subjectalisation cherche à préciser les prémices du vécu de permanence et de continuité du soi, les prémices d'une différenciation porteuse d'autonomie. Elle concerne donc avant tout un présujet ou un sujet en phase d'émerger de l'indistinction primitive. De ce point de vue, elle correspond à un temps premier de la rencontre objectale associée à la fonction de holding. Fortement dépendant de son environnement, fortement dépendant de l'objet externe, le sujet va alors être en recherche d'une fonction de holding de l'objet subjectalisant. Il n'en demeure pas moins que ce temps premier de la rencontre objectale doit enclencher un processus commandant l'instauration d'un soi suffisamment autonome, suffisamment différencié pour permettre la subjectivation. À l'inverse, l'échec de la subjectalité se mesurera à l'aune de ce qui reste pour le sujet, de ce qui pour le sujet reste indéchiffrable, intraduisible, comme on l'a dit ce matin, dans la sphère de ses pulsions propres, dans la sphère de son identité. De ce point de vue, on conçoit aisément que le repérage des insuffisances de la subjectalité soit une tâche fondamentale pour l'analyste. Largement redevable à la perspective winnicottienne, cette conception de la subjectalisation intègre les rapports du sujet à son environnement et fait de l'expérience subjective une expérience avant tout intersubjective. Il me semblait important peut-être de rappeler ces définitions donc, de la subjectalisation dans la mesure où elles sont peut-être importantes à avoir à l'esprit pour notamment les réflexions de cet après-midi. Donc la subjectalisation fait appel à deux dimensions fondamentales. La créativité de la psyché, d'une part, et la nécessité absolue de l'autre, d'autre part. Il s'ensuit logiquement que la subjectalisation requiert une forme de co-subjectivation, laquelle privilégie l'action de l'objet sur le sujet. Bien sûr, il conviendra que cette influence de l'objet sur le sujet puisse s'estomper afin de permettre une réelle appropriation subjective. Avec toute la question justement des identifications, hein, Raymond Kahn soulignant la différence qu'il convient de faire entre identification aliénante, finalement où l'impact de l'objet sur le sujet reste trop important, alors que les identifications structurantes, elles, vont requérir, tout en se modelant sur l'objet, la possibilité qu'elle soit ressaisie par le sujet lui-même. Pour que le second temps de la subjectivation advienne, il faudra en effet que le processus de transformation subjective ait favorisé un processus de dégagement vis-à-vis du désir de l'autre. La subjectivation est ainsi clairement assimilée à un processus de différenciation, l'appropriation subjective allant de pair avec la désaliénation du pouvoir de l'autre. Il va de soi donc que la possibilité de se défaire du pouvoir et des idéaux de l'autre doit permettre aussi au sujet de s'extraire de l'horreur de l'inceste indifférenciant. De ce point de vue, la traversée de la problématique oedipienne représente une des phases critiques de processus sur le chemin qui mène le sujet à l'appropriation d'un pouvoir pensé et désiré par soi et pour soi, y compris en présence de l'autre. Le dépassement de la problématique oedipienne va être tout à fait déterminant puisqu'il va autoriser du même coup l'accès au surmoi post-oedipien, celui-ci jouant un rôle clé dans l'organisation centrale de la subjectivité. Même si Raymond Kahn notamment, mais d'autres après lui, vont questionner aussi le bien fondé de conserver ce modèle névrotico-normal, donc qui postule l'accès à ce surmoi post-œdipien pour asseoir finalement le processus de subjectivation. Une fois parvenu à ce stade de développement, l'appropriation subjective permet à chacun de porter et d'assumer son passé, y compris ce à quoi il a été assujetti, ce par quoi il a été traversé. Ça permet à chacun d'habiter sa vie comme sujet de désir, d'habiter sa vie comme sujet apte à répondre de ce qui ne cesse de lui arriver, que ce soit de l'intérieur, de lui-même ou de l'extérieur. Le mouvement de subjectivation ne peut donc que prospérer que grâce au processus de transformation ayant des vertus individuantes et différenciatrices. Ainsi, tout patient chez lequel le processus de subjectivation s'avère possible ou présent peut s'offrir le luxe, dans une psychothérapie psychanalytique, d'être seul en présence de quelqu'un. A contrario, la plupart des manifestations psychopathologiques s'exprimant notamment à l'adolescence, vont cristalliser un moment de dédifférenciation, synonyme de difficulté ou d'impasse subjective. En d'autres termes, comme nous l'avons dit ce matin, les troubles psychopathologiques vont traduire implicitement un moment subjectif où se produit une entrave au changement. Ils reflètent un moment psychique où n'opère plus cette transitionnalité indispensable entre les différentes instances psychiques. Dans ce cas de figure, l'objectif premier d'une intervention thérapeutique viserait donc à désentraver le processus de subjectivation dans le but de favoriser une meilleure appropriation pulsionnelle, une meilleure adéquation de la pensée ou de l'acte avec le soi. Pour atteindre ces visées, la relation thérapeutique oscillant entre holding subjectalisant et interprétation de la relation objectale devra également être en mesure de remobiliser le potentiel de créativité psychique de l'analysant. Cette remobilisation subjective faisant éventuellement appel à un travail de co-création. À la suite de Raymond Kahn, et toujours dans une lignée très winnicottienne, René Roussillon va octroyer un rôle clé à la création, au sein même du processus de subjectivation. Puisque selon lui, nul appareil psychique ne peut se sentir vivant sans la perception de ce processus de créativité essentiel à la subjectivation. C'est une façon pour René Roussillon de se montrer critique vis-à-vis d'autres conceptions du fonctionnement psychique qui restent selon lui trop objectivantes et trop statiques. Aussi est-il impérieux pour y remédier de recourir à une acception étendue de la catégorie du transitionnel au sein même du fonctionnement psychique. Ce postulat établi, la transitionnalité devient l'essence même du processus de subjectivation, étant entendu qu'il revient au transitionnel d'assurer un travail d'intégration créatrice et un travail de transformation en vertu subjectivante. Insister sur cette dimension créative, transitionnelle, ne doit pas laisser croire pour autant que le travail de subjectivation pourra s'opérer dans une atmosphère de confort psychique. Bien au contraire, le travail de récupération de l'inconnu, du menaçant, de l'étranger à soi, va supposer pour le sujet de traverser des moments d'angoisse, d'inquiétante étrangeté, puisque les moments où le sujet se confronte à une zone d'étrangeté radicale de soi ne peuvent être qu'à l'origine d'un sentiment d'empiètement ou d'envahissement. De ce point de vue, Raymond Kahn nous donne un point de repère clinique très important en signifiant que l'inquiétante étrangeté deviendrait le carrefour de tous les possibles entre moments d'impasse subjective et moment de relance subjective. Pour traverser et surmonter ces moments d'inquiétante étrangeté, d'angoisse, la possibilité de tolérer des moments de passivation va avoir un rôle déterminant. Il revient à Bernard Thonneau d'avoir développé une conception non négative de la passivité. puisque la passivation est pour lui la condition de l'accès à la subjectivation. Or, cette tolérance à la passivation, qui sous-tend évidemment donc une dimension subie par le sujet, ne semble pas aller de soi à un âge de la vie comme l'adolescence, où contrôler, maîtriser, apparaissent les enjeux prioritaires des modalités défensives. Il semble même que l'adolescent mette tout en œuvre pour se défendre de la situation de passivité inhérente à la puberté en mobilisant d'importants contre-investissements et notamment une tendance à l'agir. Il va donc être nécessaire que l'adolescent puisse échanger ses modalités défensives, privilégiant l'agir, contre la possibilité de vivre une passivation subjectivante. Il va être nécessaire, dira Bernard Pedot, que le sujet puisse se laisser faire par ses émotions, par ses affects ou ses signifiants. Penaud souligne encore que la possibilité de traverser une telle passivation subjectivante constitue une épreuve qui s'avère particulièrement problématique pour un certain nombre de patients. Patients chez lesquels on note l'impossibilité d'accéder à une jouissance au-delà du seul plaisir décharge, c'est-à-dire des patients pour lesquels culmine l'intolérance à la défaite du moi. Cette passivation n'est pas l'exclusive de l'analysant, loin de là. Bernard Pinault, là encore, va parler d'une passivation réciproque et une éthique même de la passivation réciproque qui s'impose dans le maniement de la cure. Soit une certaine éthique où le thérapeute ne peut en aucun cas faire l'économie d'un certain pâtir. Cela venant vérifier la thèse lacanienne qui situe la position de l'analyste sur un bord de jouissance masochiste, la difficulté étant de ne pas être aspiré par cette modalité de jouissance masochiste. Pour autant, l'accès à une passivation subjectivante n'exclut pas, loin de là, une position plus subversive. C'est François Richard notamment, mais qui reprendra peut-être cet aspect, qui va particulièrement mettre l'accent sur ce registre subversif de la subjectivation. À ce titre, il va insister sur le rôle que jouent les différentes crises réelles de l'existence, crise d'adolescence évidemment, mais crise du milieu de la vie tout autant, dans le remodelage du symbolique, ces moments de crise permettant d'engendrer des formes symboliques nouvelles. En cela, la crise d'adolescence, génératrice d'une inflation de l'activité imaginaire du moi, consécutivement à la mise en crise de la stabilité des frontières entre le moi et le non-moi, pourrait être représentative de ces moments subversifs où le processus de subjectivation opère par crise réelle, ne serait-ce que pour favoriser donc un renouveau de l'activité du symbolique. Ce renouvellement donc de la trame symbolique, vécu à travers des crises réelles, va être responsable, selon lui aussi, d'une oscillation entre phase dépressive et phase plus hystérisée, voire entre moment maniaque et moment dépressif. Sur un plan clinique, cela se traduira par la difficulté à repérer chez l'adolescent, et notamment dans ses propos et agir agressifs, ce qui aurait trait à une oscillation hystérico-dépressive et ce qui relèverait d'un état maniaco-dépressif. En effet, chez l'adolescent, l'angoisse est indistinctement pulsionnelle, incestueuse et dépressive, peur de perdre l'amour, l'abandon de la mère. L'élaboration de ces angoisses supposera donc d'être en mesure de relancer l'élaboration de la position dépressive pour permettre du même coup l'abandon progressif des défenses maniaques. Dans une formulation très condensée, Raymond Kahn résume bien les enjeux du processus de subjectivation. Il énonce que ce processus de différenciation doit permettre l'appropriation du corps sexué et l'utilisation de ses capacités créatrices. Mais il ajoute également que ce processus repose sur l'aptitude à se représenter comme activité représentative, comme aptitude à s'auto-dédoubler. En soulignant l'importance de ce phénomène d'auto-dédoublement, Raymond Kahn met l'accent sur cette propriété particulière du psychisme d'exercer une activité qui lui donne accès à sa propre activité. Avec l'avantage, grâce à cette dimension autoréflexive, d'être en mesure d'infléchir le cours de cette activité subjective. Raymond Kahn insiste donc sur cette façon qu'a le sujet donc d'avoir une attention à ce qui est en lui, sur ce qui amène le sujet à prendre pour objet sa propre activité de conscience et son activité de représentation. Or, dans son texte sur la décomposition de la personnalité psychique, Freud soulignait déjà l'importance de ce phénomène de dédoublement, en expliquant que, paradoxalement, le moi peut se prendre lui-même comme objet et se traiter comme d'autres objets, s'observer, se critiquer et faire encore Dieu sait quoi avec lui-même, dira-t-il. C'est d'ailleurs à cet endroit précis qu'il fait référence à la notion de sujet, en disant que le moi est le sujet au sens le plus propre, ce qui n'empêche pas de devenir son propre objet. Freud laisse ainsi entendre qu'une partie du moi peut s'opposer au reste, que le moi peut se cliver entre un moi qui observe et un moi qui éprouve. Il va même considérer que la séparation d'une instance observatrice du reste du moi représente un trait régulier de son fonctionnement. Or, cette instance auto-observatrice préfigure bien ce qui adviendra comme activité judiciaire de la conscience, c'est-à-dire qu'elle annonce l'advenue du surmoi. Ces présupposés freudiens mènent donc à considérer que ce phénomène d'auto-dédoublement, indispensable au travail de subjectivation, n'est pas sans lien avec la différenciation moi sur moi. Dès lors, il devient difficile de penser cette émergence de la dimension réflexive sans la croiser avec la création et le maintien d'un écart moi sur moi. Il revient de ce point de vue à Jean-Luc Donnet d'avoir su montrer que l'un des foyers majeurs du travail de subjectivation doit ainsi être situé au sein de l'écart moi sur moi, puisque cet écart, par sa conflictualité même, est porteur d'effets de subjectivation. Pour Jean-Luc Donnet, si l'une des fonctions du moi tend toujours à rejoindre son idéal, dans le but de restaurer une complétude narcissique perdue, il est fondamental que cette coïncidence n'advienne jamais, sauf de manière ponctuelle. Le travail d'autonomisation du moi est donc suspendu à la préservation de cet écart avec son idéal, puisque de la préservation de cet écart dépend également la possibilité de maintenir une activité désirante et des réalisations sublimatoires. Or, il n'est pas anodin, comme nous l'explique André Green, qu'à l'adolescence, le combat change de sens par rapport au surmoi et par rapport à ce qui jouait dans l'enfance, puisqu'à l'adolescence, c'est le surmoi qui est attaqué. Il est attaqué afin de maintenir un écart subjectif entre le moi et l'idéal, pour que le moi n'en vienne pas à se confondre et à se fondre avec le moi idéal. Il n'en demeure pas moins que l'autonomisation du moi implique moins de rejeter le surmoi parental que de se l'approprier et de le subjectiver pour ne pas être possédé par lui. Si l'adolescence correspond bien à une crise des idéalisations, elle suppose donc bien un élargissement du cercle des personnages idéalisables. À ce titre, les héros culturels auront un rôle privilégié pour permettre au sujet des identifications plus légères que les identifications contraintes aux parents. L'appel aux identifications horizontales afin de favoriser le remodelage des idéaux sera essentiel pour permettre un meilleur réglage de cet écart moi sur moi. Ce processus d'élargissement relationnel identificatoire inhérent au travail de l'adolescence sera là pour favoriser l'impersonnalisation symbolique du surmoi, c'est-à-dire induire une désexualisation relative des figures imagoïques, celles-ci restant sinon avec un pouvoir malveillant, que ce soit sur le mode de la persécution ou sur le mode de l'érotomanie. On le sait, dans une perspective freudienne, l'enjeu majeur de la période adolescente vise bien à se soustraire au surmoi parental, s'y soustraire sans pour autant le rejeter, afin de ne plus confondre la dépendance au surmoi parental et la dépendance à la réalité. Cette possibilité de discriminer entre dépendance au surmoi et dépendance à la réalité représente évidemment un enjeu essentiel, voire décisif, dans le travail de subjectivation à l'adolescence. En effet, dans l'abrégé, Freud affirmait déjà qu'il n'y a pas de moyen de distinguer ce qui relève de la réalité et ce qui relève du surmoi tant que cette soustraction, cette séparation avec le surmoi parental n'est pas intervenue. Toute une part du processus de subjectivation se jouerait donc dans les remaniements qui se nouent dans la relation moi sur moi, même si ces remaniements ne font qu'échanger une soumission contrainte au profit d'une obligation abstraite mais subjectivée. A l'inverse, l'écrasement de l'écart moi sur moi reflétera l'impossibilité de se défaire de la soumission aux idéaux parentaux. Tout comme une insuffisante désexualisation et une insuffisante impersonnalisation du surmoi seront responsables de la mise à mal de la transitionnalité indispensable à l'activité subjectale. Aussi, pour conclure, apparaît-il clairement que le processus de subjectivation se définit comme foyer de résistance au code et au pouvoir, et comme point de résistance à toute forme d'assujettissement, assujettissement aux idéaux et aux pouvoirs parentaux, mais également et par extension aux pouvoirs idéologiques religieux. Dès lors, la lutte pour la subjectivité se présente avant tout comme droit à la différence et droit à la variation, à la métamorphose. L'enjeu central du processus de subjectivation concernant au final la possibilité pour le sujet de parvenir, comme l'énonce Philippe Guyton, à une distinction subjectivante entre ce qui est sa propre histoire, sa propre source interne et tout ce qui, dans la scène pubertaire, relève de l'autre, du désir de l'autre parental. Je m'arrête là.
Merci Philippe pour cet exposé dense, très dense.